voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour et bienvenue dans 7 milliards de voisins. En 2017, ce sont près de 700 000 SMS qui ont été échangés par seconde dans le monde selon les statistiques. Et la gestion de ces messages est devenue une véritable source de stress à tel point que certains ont fait le choix radical de ne plus répondre. Mail, SMS, Facebook, groupe WhatsApp, toutes ces applications envahissent notre espace de communication. Des notifications sur la tablette, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Comment gérer ces messages à l'ère du numérique, les voisins et les voisines? Pourquoi accepte-t-on si mal les non-réponses? Dites-nous comment faites-vous? C'est au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages sur WhatsApp. On vous répondra, promis. Nous avons déjà des messages de nos auditeurs de Facebook. Bertrand de Lubumbashi en RDC qui nous dit « Il faut être sélectif et ne répondre qu'aux gens que l'on connaît dans le monde réel. Éviter des groupes à thème sans intérêt. » Ibrahim de Dosso au Niger, lui, il nous dit « Je ne laisse jamais ma messagerie interrompre un tête-à-tête important, sauf en cas de nécessité. » Ousmane de Konobougou dans la région de Ségou au Mali. « En tant que mondialiste, j'aime bien la démultiplication des moyens de communication. Elle nous permet d'être en contact avec des personnes proches qui sont loin de nous. » Et on termine par Ould du Niger, à Niamey. « Avant, j'étais dans des groupes sur WhatsApp qui m'ont trop fatiguée. Je recevais trop de messages vocaux. J'ai fini par les quitter puisque je n'avais pas le temps d'écouter ou de répondre à tous ces messages vocaux. C'était trop. »
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète sépare.
Pour parler de ce flux de messages aujourd'hui, nous recevons deux invités. Maline Ridal, franco-danoise, conférencière, auteure de « Je te reprends, moi non plus » paru chez Flammarion. Bonjour.
Bonjour.
Catherine Lejal, vous êtes sociologue, professeure associée à PSB Paris. Et vous avez sorti un livre « J'arrête d'être hyper connectée » paru chez Erol. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous avez reçu combien de messages depuis ce matin, depuis votre réveil?
On compte pas quand on aime.
Des dizaines déjà?
Je pense.
Et vous, Maline Ridal?
Oui, ça doit être une bonne dizaine. Ouais.
Et vous n'avez pas encore commencé à répondre, j'imagine.
Si, j'ai tout répondu.
Ah déjà?
Oui, déjà, oui.
Vous répondez à tous vos messages?
Moi, je réponds à tous mes messages. Alors, j'explique à la fin du livre quel est mon système de réponse, justement. Donc, il y a quelques messages auxquels je ne réponds pas, mais en tout cas, ce n'est pas par hasard.
Et c'est quoi le temps raisonnable pour répondre à un message?
Alors, selon le grand sondage qui est le fondement de mon livre, raisonnable, il n'y en a plus parce qu'en fait, l'impatience est croissante. Et pour les messages dits instantanés, 50% de sondés dans 6 pays disent faire face à une non-réponse au bout de 3 heures. C'est-à-dire que le temps raisonnable pour donc, les messages instantanés, ça devient 3 heures pour 50% des gens. Pour les mails, on dit dans la journée.
Mais on se sent parfois oppressé par cette réactivité immédiate.
Oui, parce que quand on a le temps, c'est très facile. On est en vacances, on a le temps. Mais quand on fait autre chose, effectivement, parce qu'on a une autre activité, c'est effectivement oppressant.
Il y a évidemment,
culpabilisant.
Il y a le problème aussi de la qualité de ce qu'on écrit quand on écrit tout de suite. C'est-à-dire que la réponse au tac au tac n'est pas très réfléchie par définition. Et donc, on termine avec des conversations qui se résument à « ok, top, super, bravo ».
Qui sont parfois mal interprétées. quand on dit « ok » à quelqu'un.
Au moins, il y a eu réponse au message. Mais au fond, est-ce qu'il y a un vrai contenu dans ces conversations? Ça reste encore à déterminer.
Mais parfois, il y a cette peur de laisser un message sans réponse. La non-réponse à un message nous oblige tout de suite à dire OK ou bravo ou à plus tard.
Oui, alors ça peut devenir aussi une tyrannie de la réponse d'une certaine façon. Moi, j'ai voulu aborder le sujet et en faire un livre parce que mon sujet principal, c'est le bien-être et la performance, notamment dans les entreprises. Et là, cette fois-ci, contrairement à mes autres livres où j'ai décrit les solutions du bonheur, j'ai en fait identifié une vraie source de frustration. relations et des conflits et des malentendus dans les relations entre les gens. Et donc cette source est donc aussi liée à cette non-réponse qui a toujours existé, mais qui a été multipliée avec les messages qui ont été multipliés. Mmh. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation, donc toujours dans le même sondage, où 2 personnes sur 3 déclarent se sentir humiliées, blessées, pas aimées, pas respectées, pas considérées face à une non-réponse. Donc en fait, les conséquences émotionnelles sont énormes.
Mmh. Oui, et on interprète souvent mal cette non-réponse. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une envie de faire mal à la personne.
Exactement. Ce qui pose problème avec les nouvelles technologies, que ce soit le mail, le SMS, etc., c'est qu'on ne sait pas dans quel état est l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Contrairement à la conversation en face à face, on voit bien que si quelqu'un est occupé, ben, on ne va pas l'interrompre. Donc, on se sent effectivement, comme vous le disiez, peut-être abandonné, mal aimé, énervé parce qu'il y a un blocage, parce que l'autre, dans le monde professionnel, détient une information et nous retarde. Donc, une des bonnes attitudes aussi, c'est de dire, ben, je te réponds dans 3 heures, dans 4 jours, ou je suis occupé, je ne peux pas. Donc, donner cette information de, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais
parfois c'est reçu comme du mépris.
Autre chose. Exactement, c'est reçu comme du mépris. Alors je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de se dire déjà si on regarde le mail, c'est qu'on a tous plusieurs boîtes aux lettres et que ces différentes boîtes aux lettres, ces différentes adresses sont aussi liées à un degré d'urgence. On a tous une adresse qu'on va donner au magasin.
Oui.
Et celle-là, bon, voilà, on la consulte de temps en temps, c'est plutôt utilitaire. Et on a une adresse principale personnel qui va être quand même celle qu'on va regarder, qu'on va avoir sur son téléphone portable et où il y a plus des urgences parce que c'est aussi
à laquelle on donne la priorité.
Voilà, à laquelle on donne la priorité.
Et c'est une question de priorité, du coup, Maline Ridal.
Parce que j'ai voulu quand même savoir quelles sont les vraies raisons. Si 2 personnes sur 3 se sentent façon un sentiment de désamour, quelles sont les vraies raisons? Et j'ai fait professionnel, personnel, c'est amis, famille, et puis romantique, qui est un peu à part. Et dans le sphère professionnelle, par exemple, la grande raison qui explique la non-réponse, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Mmh. Et donc, tout simplement, trop de mails, pas assez de temps, j'ai oublié. Mmh. Donc, en fait, il n'y a rien de personnel là-dedans. Il y a évidemment un peu une question de priorité parce qu'il y a certains messages auxquels on répond parce que si c'est notre supérieur hiérarchique ou si on attend nous-mêmes une réponse de quelqu'un, bah, ça dépend de l'hiérarchie quand même que ça a dans notre univers. Mais globalement, il n'y a rien de méchant dans cette charge mentale vis-à-vis de la personne. Il y a d'autres raisons qui sont évoquées comme « je n'aime pas dire non », « je ne sais pas quoi répondre ».
On est un peu embarrassé de dire non aux gens, du coup on ne répond pas.
Les gens n'ont pas envie de dire non parce que dans notre éducation, on nous a appris de ne pas dire non. Sauf que, alors, c'est contre-intuitif dans le sens que, en fait, quand on pose la question, quand vous envoyez un message, est-ce que vous préférez recevoir une réponse négative, voire désagréable, ou pas de réponse? 80% des gens disent une réponse négative, voire désagréable.
Au moins, c'est une réponse.
Et donc, au moins, ils ont une réponse, ils sont libérés, ils peuvent passer et aller vers autre chose. Et puis, il y a aussi la raison, je me sens pas bien moi-même, c'est-à-dire que j'ai une grippe ou je suis déprimée, etc. Mmh. Donc je ne réponds pas. Et puis il y a une toute petite minorité qui disent je trouve pas la personne assez importante ou je n'aime pas la personne. C'est 10% des gens qui expriment une forme de mépris. Je trouve pas la personne importante. Mais par rapport à 2/3
des personnes
qui se disent rejetées, des amours, etc., c'est forcément en proportion.
Et dans le cas particulier des non-réponses à une offre d'emploi, par exemple, ou des non-réponses qui sont le signe d'un malaise au sein du travail, vous en parlez dans votre livre, vous dites il existe des phénomènes de non-réponses très pernicieux à l'intérieur des entreprises qui sont les prémices d'une mise au placard extrêmement douloureuse pour un collaborateur.
Mmh. Bah oui, la non-réponse peut être une forme d'harcèlement aussi, hein, parce que comme on sait qu'on se sent exclu et ignoré, forcément, si à la longueur des relations, qu'on n'a pas de réponse, ça peut être une forme de mise au placard, ça c'est sûr. Hein.
Catherine Lejal, cette forme de non-réponse, c'est aussi une souffrance émotionnelle.
Bien sûr, parce que tout d'un coup, on disparaît des listes de diffusion, on n'a plus l'information, on n'est plus convoqué aux réunions. Mais dans le cadre professionnel, il y a quelque chose d'important aussi sur la non-réponse, c'est que l'écrit garde des traces. Et donc parfois, on sait ce qu'on veut dire, mais il nous faut du temps pour le formaliser parce que la réponse, elle va pouvoir être transférée, elle va pouvoir être gardée, elle va pouvoir être une arme qui nous revient. Donc parfois, on ne répond pas parce qu'il nous faut du temps pour bien écrire le message. Inversement, vous disiez dans la sphère romantique, qui est à part, qui n'est pas simplement la sphère des amis et des proches, dans la sphère romantique, c'est là où c'est le plus douloureux, parce que c'est utilisé comme une arme, comme l'autre, de jouer avec son absence, de jouer avec la non-réponse. Et on parle même de shadowing, hein, où les gens, finalement, disparaissent du jour au lendemain. Et c'est pire que la rupture par SMS, c'est clairement, on n'a plus du tout de...
Vous parlez de ghosting.
Ce phénomène de ghosting qui a émergé beaucoup aux États-Unis, qui a émergé beaucoup, beaucoup avec les applications de rencontres, où la consommation de la relation est devenue une réalité. Donc les gens, ils passent, ils swapent. Et en fait, le ghosting, contrairement à la non-réponse classique, nécessite qu'il y ait eu un échange avant. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu vraiment un échange, on se connaît un peu. Et donc la disparition totale de la personne sans prévenir. Et donc c'est assez violent et jusqu'à 25% des jeunes français disent avoir été victime ou avoir été émetteur d'une forme de ghosting vis-à-vis de quelqu'un. Donc c'est très élevé, hein, c'est très présent.
Et ne pas répondre, c'est comme ignorer quelqu'un qu'on a en vrai en face de soi, comme vous dites.
Oui, après, le livre n'est pas à la charge de ceux qui ne répondent pas, parce que je pense qu'il y a des situations où effectivement, on est devenu accessible à tout le monde. Donc, avec les médias sociaux du réseau comme Facebook ou Instagram, ou notamment LinkedIn, ou qui est un peu plus professionnel, sérieux, etc., dans le ton, moi, je reçois personnellement énormément de sollicitations qui ne sont pas du tout personnalisées, qui n'ont rien à voir avec moi. Donc, est-ce que je suis obligée de me mettre dans cette tyrannie de la réponse, et répondre à quelqu'un. Alors moi, j'ai une forme de logique par rapport à ça, une philosophie qui est, je leur dois le temps qu'ils sont mis. Donc, c'est-à-dire que non personnalisés, qui ne connaissent pas mon sujet, c'est zéro temps qu'ils sont mis à savoir qui suis et personnalisé. Donc, en fait, je leur dois la même chose, zéro, donc pas de réponse.
Et Catherine Legel, vous, parfois, vous vous sentez également obligée de répondre à certains messages professionnels, personnels. Comment réagissez-vous quand vous
recevez ? Je dirais exactement la même chose. Si je sens que c'est un mailing qui a été fait et que ce n'est pas personnalisé, dans ce cas-là, je ne me sens pas concernée. Je ne vais pas non plus perdre de temps à répondre. On reçoit des choses et on se désinscrit alors qu'on se dit « mais je ne me suis même jamais inscrite. Pourquoi je reçois ça ? Ça ne me concerne absolument pas. » Et d'autres fois, ça peut être un ancien étudiant, ça peut être quelqu'un qu'on a croisé dans un colloque ou autre. Là, effectivement, oui, c'est intéressant. C'est un début de collaboration ou de faire quelque chose. Donc là, oui, je prends toujours le temps de répondre et de faire quelque chose de personnalisé.
Mais parfois, on choisit de ne pas répondre à un message tout en sachant que ça serait douloureux pour la personne. Pourquoi dans ce sentiment-là, on agit comme ça ?
Alors, c'est plutôt famille, amis, romantique, en voir émerger des raisons de non-réponse qui sont jeux de séduction, par exemple. Et aussi, il y a dans les deux catégories, je me sens blessée, vexée. Donc, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été écrit, ou on est blessé, la non-réponse devient une arme ou une forme de réponse. Mais c'est pas la majorité écrasante. Hein. C'est pour ça que j'invite les gens à prendre beaucoup de recul face à ce sentiment de désamour, parce que c'est rarement vrai. Et aussi regarder quel est mon degré de patience. Parce que si au bout d'une heure ou même 10 minutes, on va s'exciter en disant que mais enfin ils m'ont pas répondu, ils m'aiment pas, c'est difficile.
Vous expliquez d'ailleurs un cas personnel, je pense, dans votre livre sur une date d'anniversaire. Sur le temps, de message.
Ça a l'air de beaucoup plaire à tout le monde. Mais, mais c'était plutôt dans un sens, pas une non-réponse, mais en fait, le message attendu peut être vécu de la même manière d'une non-réponse. Et donc, notamment le jour de notre anniversaire, on attend des messages de toute une liste de personnes.
Et donc, quand on se réveille avec plein de messages.
Oui, voilà. Sauf celui ou celle qu'on attendait le plus. Et donc, j'ai un de mes amis très proche, un jour, je lui parle du sujet, il me regarde, il me dit, les messages attendus, notamment pour les anniversaires. Je lui dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Je t'ai toujours souhaité ton anniversaire. Il m'a dit, oui, mais la dernière fois, tu me l'as souhaité à 22h.
Ah ouais, l'heure, ça compte beaucoup.
Et il dit, un anniversaire se souhaite entre minuit et 9h du matin.
Et vous pensez pareil ou l'anniversaire, c'est toute la journée ? On peut souhaiter l'anniversaire toute la journée.
Parce qu'il y a des lèvres tard. mais c'est vrai, enfin, ça, on l'a tous vécu. Et c'est justement ce message du proche que tu attends qui compte plus que les 50 autres messages que tu as reçus. Et il y a aussi une classification, pour moi, il y a une classification des différents messages. C'est-à-dire que Facebook, qui annonce à tout le monde que c'est ton anniversaire et qui prévient les gens, il n'y a pas vraiment d'effort qui a été fait. Les gens, en fait. Par contre, des gens qui ne sont pas forcément sur Facebook, qui vont t'envoyer un message privé. Là, tu sais que c'est parce qu'ils s'en rappellent et pas parce que on leur a rappelé. Et finalement, c'est juste quelque chose d'automatique. Quoi.
Donc, allez, on se fait une petite pause musicale avant de continuer.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de
Hocus Pocus.
Nous ne pouvons pas vous répondre, car nous sommes actuellement en tournée. Laissez un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
Ça commence par le rencard aux aurores pour charger le matos. Le lève-tard qui, de bon matin, tu collerais bien une bastos. Des excuses tellement bidons qu'elles en sont acceptables. Du genre, c'est pas moi, c'est le réveil de mon nouveau portable. Et puis de bonne humeur, y'a le départ pour un point B. Mais le copilote te fait souvent passer par le point C. Quelques pauses pour repart géométrique. Y'a pas à se plaindre car c'est un putain de job. Même si on joue plus à voisin de bretonneux qu'à l'autre bout du globe. Y'a toutes ces villes où on ne jouera jamais, où on ne veut pas de nous. Car dans certaines mairies, le mot rap est tabou. Depuis des années, je note pas mal d'anecdotes. J'en ai plein les poches et j'épargne pas mes potes. On a sillonné l'hexagone, ouais. Je voudrais te raconter, mais là je peux pas car je suis en tournée.
Vous êtes bien sur le répondeur d'HP. Laissez un message car on est en tournée. Parlez juste après le bip.
Vous êtes bien sur le répondeur d'HP. Laissez un message, car on est en tournée. Parlez juste après le bip.
Y'a ce frisson qui parcourt ton épine dorsale. Quand t'as pas encore joué une note et que c'est le feu dans la salle. Y'a ces concerts records, ces moments presque magiques. Où y'avait plus de monde sur scène que dans le public. Ce mec devant qui connaît chaque phrase, chaque mot. Je me dis que si j'ai un trou, bien au pire, je lui tends le micro. C'est qui ne te quitte pas des yeux du concert. Y'a les hystériques et ceux qui s'en battent présents. Parce que dans le groupe d'avant, c'est leur pote à la gratte. Tu rêves de partager les planches avec des grands noms. Et tu joues à Guémard à la fête du jambon. Y'a aussi le freestyle de fin où ce gars prend le mic pour la première fois. Il sort de scène heureux. Là, je comprends pourquoi on a sillonné l'hexagone. Ouais, je voudrais te raconter, mais là, je peux pas car je suis en tournée.
Focus, focus, on tour. Live and direct, son.
Nous écoutons juste à l'instant Tournée de Hocus Pocus.
7 milliards de voisins
et la planète sépare.
Le sujet du jour, c'est le flux des messages que nous recevons sur nos applications de communication. Et nous avons tout de suite un auditeur en ligne, Senko de Conakry, c'est un Guinée. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour 7 milliards de voisins.
Alors, comment vous gérez vos messages?
Voilà, comme je le disais tantôt, c'est que à un certain moment, il va falloir prendre sa responsabilité vis-à-vis de certaines choses. À un certain moment, moi, je recevais des messages énormément et ça me stressait. Je prenais tout mon temps de répondre à ces messages. Ça me faisait perdre beaucoup mon temps. Donc, je me suis dit, franchement, il faut changer la donne. Donc, c'est par rapport à cette question que je me suis dit, tous les messages ou les appels qui ne sont pas très importants ou qui ne m'apportent rien du tout, j'essaye de les trier. Donc, quand je vois un message, il suffit juste de voir l'entête pour comprendre ce que l'autre veut dire. Donc, je ne prends pas trop de temps pour répondre lorsque ce n'est pas important parce que ça me stressait énormément. Mais maintenant, Dieu merci, je le fais très bien. Je prends mon temps. Lorsque quelqu'un m'écrit, par exemple, que je trouve que ce n'est pas très intéressant, j'attends plus tard. À un moment libre comme ça, et je réponds à la personne où c'est peu moins que je ne réponds pas à certains des messages. Hein.
Et vous avez décidé de prendre cette décision au moment où vous êtes senti submergé par trop de messages, par tous ces messages.
Effectivement, parce que souvent, il y a mes amis qui me faisaient des reproches en disant que j'étais tellement accro au téléphone que je ne suis pas, ils ne me sentent pas trop à côté d'eux. Donc, je me suis dit, voilà, il faut essayer de changer un peu tout ça.
Et c'est ces messages, vous ne favorisez pas les vrais rapports entre vous et vos proches?
Ah oui, effectivement, parfois, c'était des choses qui ne sont pas assez importantes. Donc, il va falloir faire la part des choses, quoi.
Et par contre, on ne vous a pas fait de reproches quant aux non-réponses, les gens à qui vous ne répondez pas ?
Eh bien sûr, mais la vie va ainsi. Si on dit que les critiques et autres, qu'on ne va pas les supporter, ça sera difficile. On ne peut pas faire plaisir forcément à tout le monde. Hein. Là, il faut reconnaître, ça c'est dur à l'entendre, je m'en excuse, mais à un certain moment, il faut décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon.
Chers invités, vous êtes d'accord avec Senku, notre auditeur ?
Tout à fait, il faut établir ses priorités et puis ne pas oublier à passer du temps avec les gens en face à face, autour d'un repas, autour d'un moment partagé. Donc, on n'est pas là pour juste faire des relations épistolaires.
C'est le conseil principal en fait du livre, c'est exactement ce qui a été entrepris, oui. C'est-à-dire que de définir son propre système de réponses et le communiquer aux autres en fait pour éviter des il y a pas une référence qu'il faut répondre à tout ou le temps, mais à partir du moment où on a des idées comment on fonctionne et on peut le communiquer aux autres, ça évite les malentendus et aussi si on définit pour soi-même, parce que il y a aussi accompagné, et on l'entendait un peu là dans le témoignage, oui, de la culpabilité, c'est-à-dire du stress. Mais à partir du moment où vous avez un système, ça ne va plus provoquer un stress parce que c'est clair.
Dans ce cas-là, on se met des limites, on gère ces messages.
Voilà, on gère, on ne va pas dire « Oh, j'aurais dû répondre à ce groupe WhatsApp, etc. » Si on a des idées que le groupe WhatsApp, je ne réponds pas, sauf s'il y a une vraie question légitime, oui, urgente.
Qui nous est adressée.
Qui nous est adressée particulièrement. Sinon, je laisse les gens commenter ou je me retire des groupes. Mais il faut décider ces choses-là parce que sinon, ça reste flou pour soi-même et donc stress. Frustration et puis surtout pour les autres aussi, donc tous ces malentendus avec nos relations, c'est pas bon.
Senko, vous avez autre chose à ajouter?
Oui, surtout par rapport au groupe que les gens créent parfois sur WhatsApp, oui, sur Messenger, d'aller vous retrouver dans un groupe où vous n'avez même pas eu la personne ne vous a même pas demandé pour vous en ajouter, et c'est qui est un peu frustrant parce que ne cherchant même pas ce que je veux ou ce que la personne a envie de faire. Quand vous vous retrouvez là-dedans, franchement...
vous n'avez rien demandé, vous êtes dans un groupe.
Ah oui, ça arrive parfois.
Et comment vous faites? Vous sortez du groupe ou vous dites... qu'est-ce que vous répondez?
Si je trouve que ce n'est pas intéressant, je sors tout de suite du groupe. Hein. C'est le moins...
Ça vous fait rigoler, Maline Ridal.
Parce que je me sens un peu concernée. C'est vrai que quand on nous met dans des groupes et que ça n'en finit pas, il y a 50 messages par jour, mais c'est très sensible parce que se retirer d'un groupe, ça peut vraiment provoquer un vrai conflit. C'est-à-dire, oui, moi, ça m'est arrivé, on m'a mis dans un groupe de randonnée alors que je...
Vous ne faites pas de la randonnée?
Non.
Vous n'êtes pas une passionnée de la randonnée?
Mais si, c'est moi qui suis passionnée, mais des montagnes de gens que je ne connais pas. Donc, je me suis retirée et j'ai eu un message en privé en disant que ça m'a blessée, la personne qui avait créé ce groupe de randonnée. Oui, donc, Mais c'est la confusion entre l'objet et la relation. C'est-à-dire que les randonnées dans un groupe WhatsApp ne m'intéressent, c'est un objet, on peut le dire comme ça, et ce n'est pas la relation avec celui qui a créé le groupe. Mais ça, cette confusion, on le fait souvent entre l'objet et la relation, quand on n'a pas de réponse.
Alors que vous-même, vous pouviez être blessé parce qu'il ne vous connaissait pas et il aurait dû savoir que la randonnée, non, vous habitez plein centre de Paris et voilà, c'est plus ça d'aller
voir. Merci beaucoup, Senku, pour ce témoignage. Au revoir.
Merci beaucoup et surtout bonne émission.
Merci à vous.
Merci.
Nous recevons toujours au téléphone une auditrice de N'Djamena au Tchad, Gladys. Bonjour, bienvenue.
Bonjour les voisins.
Vous répondez par contre à tous vos messages dans la seconde près.
Oui, je mets d'abord la priorité sur les mails professionnels. Oui. Et après, dès que j'ai le temps... Généralement, sur les réseaux sociaux, j'ai un groupe d'amis qui me connaît très bien. Je sais que quand on m'écrit en toutes lettres et avec politesse, je réponds du tic au tac. Donc, j'ai horreur des abréviations, des erreurs, et puis des gens qui me forwardent des messages qui n'ont rien à voir avec moi, comme l'ont dit les autres tout à l'heure. Mais quand c'est des amis, ils savent que, dès qu'ils m'écrivent, j'ai la notification, je réponds.
Et même parfois, quand vous dormiez, ça vous arrive de vous lever et répondre aux messages?
Oui, ça m'arrive très souvent.
Et ça ne vous dérange pas?
Non, ça ne me dérange pas. J'ai des séquences de sommeil et il m'arrive de me lever au bout de 2-3 heures, donc je vérifie, je check quand même mes messages. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a une urgence dans la nuit, donc je check dès que je vois
vous,
un message.
Vous surveillez tout, en fait.
Oui, un peu ça.
Ce qui est intéressant avec un système comme ça, c'est que ça crée des attentes. Et en fait, ce système-là, si un jour on est en rupture avec ça, c'est-à-dire on arrête de répondre à la nuit ou on arrête pas là, les gens vont s'inquiéter. Donc en fait, la manière dont son comportement dans la gestion du message crée des attentes. Donc si on change de système, parce que là, ça peut devenir un système de réponse où on a des attentes à avoir des réponses dans toutes les heures. En fait. Oui. Finalement. Et ça peut devenir quand même un stress à devoir répondre à toute heure, etc. Donc, il faut, après, si c'est un système qui ne génère pas de stress et qui fonctionne, c'est très bien, mais c'est quand même, ça crée des attentes.
Et l'heure à laquelle on répond, c'est évident que c'est interprété. On se dit, mais de toute façon, alors, ils n'ont rien d'autre à faire que de répondre immédiatement et à 3 heures du matin, 5 heures du matin. Donc, il y a aussi cette question-là de se dire si je réponds trop vite, et dans le monde du travail, c'est vrai aussi, on envoie le signal que finalement, on fait passer toujours les priorités et les urgences des autres avant les siennes.
Et Gladys, vous vous sentez obligée, vous vous sentez dans l'obligation de répondre à tous ces messages ?
Oui, surtout des messages importants. Et comme je l'ai dit, des messages professionnels bien avant. Après, il y a de la famille, il y a des amis. Dès que je vois un message, je me sens obligée de répondre. Par contre, tous ceux qui envoient juste des messages pour déranger, là, bon.
Vous ne répondez pas.
Il y aurait comme pour les autres. Oui.
Merci beaucoup, Gladys.
De rien, merci. Bonne
et
à vous.
Merci. Nous prenons un autre auditeur de Niamey, c'est au Niger, Ama. Ama, bonjour.
Bonjour, 7 milliards de voisins.
Bienvenue.
Merci.
Vous nous dites que vous êtes esclave de votre téléphone.
Effectivement, je suis
comment
esclave
ça se fait?
De mon téléphone. Je suis esclave de mon téléphone. Je ne dépends plus de moi-même. Allô?
Expliquez-nous, oui, on vous écoute.
D'accord, je ne dépends plus de moi-même. Et partout où je suis, j'ai mon téléphone sur moi. Je suis devenu accro de mon téléphone.
Vous utilisez votre téléphone partout?
Quand je me déplace, je manipule le téléphone. Et au lit, aux toilettes, à la FADA, partout où je suis. Partout où je suis, je suis obligé de prendre mon téléphone, sinon je me sentirais vraiment pas du tout à l'aise.
Mais ce sont des messages professionnels, des groupes d'amis. Quels sont les messages que vous recevez et vous ne pouvez vous empêcher de répondre?
Oui, je reçois n'importe quel message, surtout pendant la journée, beaucoup de messages. Et dès que je reçois des messages, je ferai tout le possible pour répondre rapidement parce que quand je ne réponds pas tout de suite à un message, je me sentirai gêné.
Vous culpabilisez?
Je me sentirai stabilisé. Prenez l'exemple d'être devant une personne. Et cette personne vous parle et vous ne l'écoutez pas. Et c'est comme ça.
Vous comparez...
Quand vous envoyez un message, vous ne répondez pas.
Mais est-ce que vous sentez que c'est un problème pour vous de ne pas pouvoir vous détacher de vos messages, de votre téléphone?
Oui. Bon, avant je n'étais pas comme ça. C'est maintenant que ça m'arrive, quoi.
Catherine Légel, qu'est-ce que vous répondez?
Ça me fait penser un peu
à
un doudou, en fait. C'est un objet très réconfortant parce que finalement, vous avez toujours quelqu'un avec vous, des amis, des messages, des conversations. Et en fait, Winnicott disait carrément le doudou doit être l'objet traditionnel qui doit apprendre à l'enfant à se passer de sa maman. Et à un moment, c'est-à-dire, est-ce que je saurais vivre finalement sans... ces contacts-là, si je suis toute seule ou tout seul, qu'est-ce que je fais finalement? Et on ne se pose plus cette question de savoir où s'ennuyer ou décider de ce qu'on a envie de faire. Et c'est là où il y a tout d'un coup un risque, en fait. Si on passe son temps simplement à être en attente de devoir répondre, etc. Et pouvoir encore savoir finalement rester seul et décider de ce qu'on va voir, aller voir une vidéo, aller voir quelque chose qui nous intéresse.
c'est devenu un mécanisme auquel on fait appel, un peu comme la cigarette. À un moment donné, le moindre moment d'attente ou d'ennui, on peut déclencher la machine à conversation, c'est-à-dire balancer des « ça va, salut » dans tous les sens et avoir, à un moment donné, 10-15 conversations très superficielles, mais en fait, qui empêchent en fait, le vide. Et donc, le fameux vide qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que juste avoir le temps et dire de quoi j'ai envie, mais du coup, par cette machine à conversation, on est occupé et donc ça évite qu'on se pose des bonnes oumaises d'ailleurs, mais des questions en tout cas.
Ou simplement qu'on se repose en fait. Entre deux activités, des fois le cerveau a peut-être besoin aussi de se reposer.
Ama, avez-vous une question pour nos invités ou voulez-vous ajouter autre chose?
Bon, j'ai une telle très simple, une telle question.
Oui, allez-y.
Je voudrais savoir comment je vais faire pour quand même laisser avoir un petit peu de repos quoi, pendant la journée sans mon téléphone.
Comment se détacher de ce flux?
Le meilleur conseil, c'est de vous asseoir et voir quelles sont vraiment vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui pourrait être un bon système de réponse pour vous ou qui vous laisse un peu d'espace à vous. Quel est le temps raisonnable pour la réponse? Quelles sont les priorités? Est-ce que vous avez besoin d'avoir toutes les messageries sur toutes les plateformes ou est-ce que vous pouvez centraliser certaines choses? Est-ce que vraiment il faut répondre dans 10 minutes ou est-ce que si quand même vous répondez dans la journée, ça peut le faire? Et surtout, une fois que vous avez défini pour vous ce qui vous convient à vous, d'être dans la communication avec les autres, dans le dialogue, et en fait faire connaître ce système-là pour éviter des malentendus. Et après, vous allez retrouver du temps pour vous avec cette réflexion.
Merci beaucoup, Ama, pour votre témoignage.
Merci à vous également.
Et puisque nous parlons du flux des messages et des conséquences, des inconvénients sur notre vie, notre bien-être, je vous propose d'écouter cette petite fiction qui a été préparée par Alix l'Hospital.
Vous êtes bien sur le répondeur d'Alix l'Hospital. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message et je vous rappelle.
Ça, c'est mon répondeur. En fait, je rappelle jamais.
Bonjour. Bon. Écoute, il faut que je te raconte un truc là, parce que là, j'ai vraiment les nerfs.
Alix, ça va? Ça m'énerve de trop parler. Je te parle comme si j'étais au café, quoi, en train de boire un verre avec toi.
Ouais, désolée, j'avais un peu de retard, mais je suis là dans deux stations, donc je me dépêche.
Ça commence le jour où je réalise que mes journées font toutes le même bruit. Ça, c'est moi, organisant un rendez-vous avec ma mère. Encore moi, annonçant à ma mère une très bonne nouvelle. Moi. Annonçant à ma mère une très mauvaise nouvelle. Moi dans mon lit, un lundi, un mardi, samedi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un dimanche, dans mon salon, ma chambre, dans mes toilettes, mon bureau et dans le métro. Ils arrivent de partout.
Bienvenue sur votre messagerie. Nouveau message. Vous avez reçu aujourd'hui. Nouveau message. 14h24.
Salut Alix, bon, comme d'habitude t'es pas là, donc écoute, tu me rappelles quand tu peux.
Et si par malheur, j'oublie de répondre... C'est le tribunal des ondes.
Ouais, c'est moi. Je voulais juste savoir si t'étais éventuellement encore en vie. Du moins, j'attends ton appel.
Ça fait 8 messages que je t'envoie, donc si tu pouvais avoir la décence de me répondre, ce serait cool. Je te souhaite pas une bonne soirée, du coup.
Alors j'ai tout coupé. Je lis. Je me cultive. Je prends le temps de voir mes amis. Ma famille. Lever la tête dans la rue. Plus personne ne m'écrit. Je m'ennuie. C'est calme. C'est très calme. Mon portable me manque. Un peu, beaucoup, passionnément. À la folie, pas du tout.
Beaucoup, 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 beaucoup,
beaucoup.
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 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et cette belle fiction qui nous met face aux difficultés qu'on peut avoir avec la surexposition à tous ces moyens de communication, on est débordé parfois.
On est débordé évidemment par la multiplication parce que avant il y a toujours eu de nos réponses, mais il y avait, et après il y a les courriers, etc., le téléphone où on laissait des messages effectivement, et après l'email. Mais ça a explosé avec le fait qu'on a le téléphone à la main tout le temps, à tout moment. Les emails c'était essentiellement devant l'ordinateur au bureau ou peut-être à la maison, mais on se connectait, on se déconnectait. Là maintenant c'est en permanence. Et puis les plateformes comme WhatsApp, Messenger, et aussi le fait qu'on nous écrit sur les médias sociaux. sociaux, ça vraiment, c'est toute une autre situation auquel on fait face. Hein. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et le problème, en fait, et ce pourquoi j'ai voulu vraiment écrire sur le sujet qui peut sembler, au départ, quand on dit la non-réponse, il y a plein de gens qui m'ont répondu, mais la non-réponse, c'est un non. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Oui. Et c'est surtout que quand on sait que pour notre bien-être, bonheur, l'élément qui compte le plus sur une vie, selon les études de Howard University, normalement, sur 75 années, c'est la qualité de nos relations.
Et avec la qualité de nos proches,
avec nos proches, avec les gens. Donc la qualité de nos relations est en train d'être mise en danger par ces phénomènes de conversation où on n'a pas défini les règles. En fait, quelles sont les règles de cette nouvelle manière ou à l'ère digitale de communiquer, de répondre, pas répondre, le temps. Cette notion de temps, quand j'ai posé la question, au bout de combien de temps vous estimez faire face à une non-réponse ? Il y a quand même 20% de gens dans certains pays qui disent « dans les médias ». Enfin, dans les médias. Dans les médias, c'est-à-dire que j'envoie un message. Et le problème, c'est aussi que les gens, ils font pas preuve d'empathie quand ils envoient des messages. Parce que
mais parfois, quand on envoie un message, on peut se mettre à la place de la personne. Nous, quand on ne reçoit pas le message, ce que ça nous fait.
Mais
on s'imagine que ça ferait la même chose à la personne.
Non, c'est de responsabiliser aussi les gens qui balancent des messages dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
À 2h du matin.
À 2h du matin, par exemple, le moment où vous avez envoyé le message, les contenus, le message, la relation avec la personne. Est-ce que réellement, je peux m'attendre à être une priorité dans la vie de la personne. Et est-ce que je demande à quelqu'un de m'aider à déménager ma maison ou est-ce que je pose une question qui est facile, qui est désirable, qui n'est pas désirable est-ce que je leur demande plein de choses sans penser à l'intérêt que ça peut avoir pour la personne qui reçoit le message? Et ça, il y a quand même une responsabilisation aussi des personnes qui envoie des messages.
Il faut s'éduquer soi-même.
Ah bah oui.
Catherine Lejal, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle finit par décrocher et ne répond plus à personne.
Oui, j'ai vu. Et parfois, des gens, ils vous envoient un mail, mais ils vous envoient un SMS pour vous dire qu'ils vous ont envoyé un message. Donc, cette multiplication des plateformes, comme vous dites, il faut être très clair avec chacun en disant, moi, ma priorité, je réponds sur telle plateforme ou pas telle autre. Plus les notifications qui fait qu'on a l'impression à chaque fois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et puis, en même temps, cette double injonction que ça nous fait plaisir de recevoir des choses, mais on se sent bombardé, il faut répondre très, très vite. Je pense qu'il y a une catégorie encore de messages auxquels on ne répond pas, qu'on n'a pas encore abordé,
oui,
qui est en fait le message où on se dit « mince, je ne peux pas répondre par écrit. Il faut que ça, c'est quelque chose où il faut vraiment se voir. »
Mais on oublie... En même temps, ça renforce les liens physiques.
Voilà, on oublie physique. Que l'écrit, finalement, le non-verbal, les visions, c'est 70% du message, alors que l'écrit, c'est 30%. Et donc, il y a des choses, on ne peut pas se contenter des 30% parce qu'il faut amener cette empathie, cette relativité. On a besoin de voir les traits du visage et finalement, le corps.
Et finalement, comment faire pour, on déconnecte, on s'est dit cette journée, c'est une déconnexion totale pour moi ou comment on fait ?
Moi, je ne pense pas que la déconnexion totale soit la meilleure solution. On se déconnecte pendant une heure parce qu'on veut lire, on veut aller manger au resto avec quelqu'un. Enfin, on fait quelque chose qui nous importe pour nous ou on prend une bonne douche, un bain moussant, quelque chose. En tout cas, on a droit à des moments où on n'est pas le domestique de Fédo qui est sifflé comme ça avec une petite cordelette et l'injonction de répondre. Et ensuite, on regarde. Il s'est accumulé un certain nombre de messages, on répond et puis on relaisse tomber, on s'octroie de nouveau un moment. C'est se remettre finalement plus égoïstement au centre du dispositif en se disant je mérite mieux que d'être cette machine qu'on sonne tout le temps et qui doit en plus par rapport au cerveau zapper d'un contexte à l'autre, répondre à un tel, etc. À la fin, on a une surchauffe de la machine et finalement, une espèce de burn-out.
Maline Ridal, pour vous, ce serait quoi la solution ?
C'est vraiment le prise de recul. Enfin, mais c'est d'abord définir son propre système. Moi, je pense que c'est prendre responsabilité de son propre système, le définir, le communiquer aux autres. Et quand on estime être victime de ce sentiment de désamour, d'une réponse, se poser quelques questions, à quel moment j'ai envoyé le message, quelle est ma relation, quel est le nombre de messages supposés de la personne. Quand on s'adresse à des journalistes, par exemple, on sait, par définition, qu'ils sont extrêmement sollicité. Donc, la probabilité que dans cet océan de messages que j'ai vraiment... Et est-ce que j'ai écrit un journaliste qui traite mon sujet ou est-ce que j'ai balancé à tout le monde ? Et donc, toutes ces questions-là sont très importantes de se poser avant de se dire en même pas. Parce que le sentiment ou la croyance de dire je ne suis pas assez bien ou en même pas parce qu'on m'a pas répondu, c'est très mauvais pour la personne et ça génère rien de bon. Donc, il y a quand même plein d'explications avant de se dire c'est moi.
Et un dernier message d'un auditeur, Ezekiel de Zender, c'est au Niger. légère. Il nous dit, je réponds à tous mes SMS, même si ça n'a pas d'importance, je ne peux pas supporter une journée sans le téléphone. Il m'arrive même de répondre aux messages sans voir les claviers, puisque j'ai mémorisé toutes mes touches. J'aimerais cependant savoir comment pourrais-je faire pour ne pas être dépendant complètement de mon téléphone. Et là, voilà, vous avez la réponse. Nos invités vous ont donné des solutions tout à l'heure, mais lui, il a carrément mémorisé toutes ses touches pour répondre au tac au tac à ces messages.
Mais là, pour le coup, c'est une addiction. Donc, on n'est plus dans le rationnel. On est dans une forme d'addiction émotionnelle, etc. Donc, il faut faire, un detox de ça. Mais oui. Il faut prendre du recul, dire qu'est-ce qui est bon pour moi, quels messages me font plaisir, là où est-ce que c'est utile, etc. Après, il y a toujours des messages qui ne sont pas importants pour nous, mais qu'on estime être importants pour les autres. Quand notre maman nous envoie une photo d'un oiseau dans le jardin et dit « Regarde, chérie, l'oiseau est joli », bah, peut-être on n'estime pas que c'est très important par rapport à d'autres choses qui se passent dans le monde, mais pour elle, à ce moment-là, c'est ce qui est au centre de son univers.
Et un dernier mot, rapidement, Catherine Lejeune.
On oublie qu'il y a pas très longtemps, on avait finalement des garde-fous. Il n'y avait pas du réseau partout, il n'y avait pas du Wi-Fi partout, où ça coûtait cher d'envoyer encore des messages. Et finalement, cette gratuité, elle a son mauvais côté. C'est que finalement, si on devait payer pour chacun des messages et que ça coûtait encore cher, comme ça a été à une certaine époque, eh ben, peut-être qu'on serait plus raisonnable.
Et il y a quand même la question aussi, pardonnez-moi, de la pollution, parce que ça pollue énormément. Et en fait, les échanges décousus, quand on dit ça va, salut, etc. En fait, chaque message multiplie l'émission de CO2.
Plus tout ce qu'on stocke, avec tous les data centers qui finalement consomment aujourd'hui même plus que finalement.
Mais on en arrivera un jour à se dire, il faut qu'on diminue tout ce flux.
Voilà, et se dire, je vais aussi simplement faire du ménage dans mes espaces de stockage, j'ai pas besoin d'utiliser tout cet espace sur le data center pour des raisons écologiques. Et puis, en conclusion aussi, la 5G qui arrive, qui va être une longueur d'onde donc différente, qui va être beaucoup plus nocive pour la santé, c'est aussi se poser ces questions-là, finalement.
Et qui va aussi nous mettre encore dans l'immédiateté.
Oui, encore plus.
Et merci à nos deux invités du jour, Malina Ridal, conférencière, auteure de « Je te réponds, moi non plus » paru chez Flammarion. Merci d'être venue.
Merci à vous.
Catherine Lejeune, sociologue, professeure associée à ISC Paris. J'arrête d'être hyper connectée. C'est votre livre paru chez Erol. Merci d'être venue.
Merci.
Et nous, tout de suite, nous allons recevoir un autre invité, mais au téléphone.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Nous avons au téléphone Didier Akwete. Bonjour.
Bonjour, depuis Dakar. Comment allez-vous?
Bien, merci. Et vous?
Eh bien, plutôt bien. Au soleil, ça change.
Ah ben ici, c'est le froid.
Eh bien, c'est bien ce que je me disais.
Vous êtes directeur général du cabinet de recrutement Afrique Search. Vous êtes à Dakar, comme vous venez de le dire, dans le cadre des 2 ans de la DER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que la DER en 2 mots?
Absolument. La DER est une structure publique qui accompagne justement le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et depuis 2 ans, les résultats sont plutôt assez convaincants puisqu'ils ont réussi à accompagner plus de 1500 structures, quelques milliers de jeunes, financés pour près de 30 milliards de projets dans différents secteurs comme l'agriculture, l'artisanat, la pêche. Et donc c'est une forme un peu moderne de développement de l'emploi en Afrique, au Sénégal en particulier. Dans un contexte où, comme vous le savez, l'emploi est plutôt rare et même les diplômés ont du mal à avoir accès au marché de l'emploi. Donc la DER s'inscrit dans ce cadre qui me paraît être un cadre assez positif.
Et la DER aide également les femmes dans l'entrepreneuriat?
Absolument. Plus de 60% des bénéficiaires des programmes de la DER sont des femmes. Et vous savez que l'Afrique, c'est une terre d'entrepreneurs de femmes qui sont aussi bien dans les services, le commerce, l'agriculture, mais qui ont du mal à devenir les champions de demain. Et donc, toute la problématique, comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces femmes pour qu'elles deviennent des championnes dans leur secteur? Et c'est un peu une des missions de la DER également. Et les femmes sont massivement bénéficiaires de leur programme. Donc, 70% des femmes bénéficient des programmes de soutien de la DER.
Et c'est quoi le problème de l'entrepreneuriat aujourd'hui?
Le problème de l'entrepreneuriat, c'est l'accompagnement. Vous savez, on a beau former des jeunes, on a beau former des femmes, s'il n'y a pas de structure d'accompagnement, de soutien, que ce soit les structures qui forment, qui incubent, qui coachent, qui font le mentoring. Vous savez, il y a des jeunes qui choisissent l'entrepreneuriat par défaut, qui ne savent même pas lire un bilan, qui ne savent pas faire un business plan. Donc c'est bien leur donner de l'argent, mais encore faut-il les accompagner. Et c'est un peu ça, je pense, l'enjeu fondamental des années qui viennent. Comment vous arrivez à insérer ces jeunes dans des structures d'accompagnement en dehors du système de financement, donc passer d'un système purement quantitatif où on donne de l'argent un système qualitatif qui met l'accent sur l'accompagnement. Et donc ça, c'est un des enjeux importants.
Pour vous, donner de l'argent, ce n'est pas très bénéfique, en fait.
L'argent, vous savez, même une grande entreprise, donner de l'argent, au bout de 2 ans ou de 6 mois, elle peut l'avoir épuisé. Donc, comment est-ce qu'on arrive à donner des aptitudes entrepreneuriales, des compétences, qu'on a tous ces soft skills, cette capacité à comprendre les enjeux du marché, à se développer, voire même à incuber ces jeunes dans des entreprises, dans des PME, pour que ces jeunes puissent porter leurs projets dans des entreprises structurées qui existent, avant que ces jeunes ne puissent prendre leur envol. Donc c'est vraiment cette dimension sur laquelle tous les acteurs doivent insister, et notamment l'ADER qui s'inscrit dans cette démarche, qui me paraît fondamentale, parce qu'on a beaucoup de projets emploi jeunes en Afrique, mais s'il n'y a pas cet accompagnement qualitatif, ces projets sont morts. En fait.
Et cet accompagnement qualitatif dans les entreprises, il s'agit de quoi exactement? De quoi ont-ils besoin les jeunes pour réaliser leur projet d'entrepreneuriat?
Prenons un jeune, par exemple, qui veut monter une entreprise de production de jus, qui ne sait pas faire. On peut tout à fait accompagner ce jeune dans une entreprise qui produit déjà des jus pour permettre à ce jeune d'être formé à la production, d'être formé au marketing, d'être formé à la commercialisation en bénéficiant du savoir-faire de cette entreprise. À côté de ça, on peut mettre un mentor, on peut mettre un coach.
Le mentoring.
Qui accompagne dans toute la démarche, absolument, jusqu'à ce que peut-être au bout de 12 mois, 24 mois, le jeune soit autonome et là, vole de ses propres ailes pour créer sa opportunité de production, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement concret dans des structures qui existent et des experts qui peuvent donner cet appui technique à ces jeunes qui, malheureusement, leur font défaut. Parce que le système éducatif, n'oubliez pas, ne forme pas à l'entrepreneuriat. C'est très récent.
Et justement, avec ce,
dans les universités,
et justement,
ce genre de cycle.
Avec ce genre de problème, est-ce qu'après, vous faites un suivi? Le jeune qui arrive à prendre son envol après le mentoring, est-ce que vous avez un suivi après pour voir comment il se débrouille?
C'est ce suivi que ces structures également doivent faire. Il ne s'agit pas simplement de l'aider à démarrer, mais de l'accompagner sur plusieurs années, 2-3 ans, comme ce programme qu'on avait fait au Bénin, dans lequel on a accompagné pendant 1 an, une fois que la personne s'est installée, accompagner le processus de développement. Bon, après, on ne peut pas faire du baby-sitting non plus ad vitam aeternam, mais s'assurer que le jeune, l'investissement qui est fait, qualitatif et quantitatif, puisse durer et créer des emplois, puisque le but du jeu, c'est quand même d'arriver à créer des emplois pour ces 15 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi en Afrique.
Et le Sénégal, où vous vous trouvez en ce moment, le pays en est où aujourd'hui sur le plan de l'entrepreneuriat des jeunes?
Alors, c'est justement l'une des missions de l'ADER. Aujourd'hui, parce que le marché de l'emploi n'offre pas ses débouchés, les jeunes sont très entrepreneurs. Mais il faut plus d'encadrement. Et vous savez que le chômage n'échappe pas, malheureusement, au marché sénégalais comme la plupart des marchés. Et ici, nous avons une terre d'entrepreneurs. Hein. Quand vous prenez, par exemple, le secteur des nouvelles technologies, le Sénégal est un hub important de toutes ces nouvelles technologies. Les incubateurs, c'est vraiment une sorte de tech hub. Et on voit que l'entrepreneuriat n'est pas du tout étranger à ces jeunes. Mais une fois de plus, c'est cet accompagnement qui est indispensable, c'est un accompagnement qualitatif.
Merci Didier Akouété. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet de recrutement Africa Search. Vous étiez au téléphone depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Demain, comment faire sa généalogie? Quel est l'intérêt de faire des recherches généalogiques? Ne manquez pas cette émission avec nos invités de demain. N'oubliez pas également, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur les podcasts, vos applications préférées, Google Podcast, Podcast Addict. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission, et je suis Penaï Traoré. Merci à Cécile Lavelot, Delphine de Dianous, Victor Hull, Alix L'Hospital.
Tout à l'heure sur RFI.